TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et surtout notre invitée. Elle a du charisme, elle a du charme, elle a du talent. C'est une comédienne qui ne cesse d'occuper le petit écran dans des fictions bouleversantes que vous allez le voir. Grâce à ses personnages, elle fait bouger quand même d'une certaine manière à sa façon l'énigme et éveille les consciences. Comme dans Apprendre à t'aimer, c'était sur M6, où elle campait une maman d'enfant trisomique, ou dans le téléfilm Mise à nu, dans lequel elle évoquera bientôt le thème de la cybercriminalité. Je vais y arriver. Cette semaine, cette héroïne du bazar de la charité revient, se glisse dans la peau d'une joueuse de tennis professionnelle, une ex-championne, et qui a vécu parfois un véritable calvaire avec celui qu'elle considérait comme son mentor. Judith Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé. Service volé, c'est le titre de la fiction, du téléfilm que diffuse TF1 ce soir en première partie de soirée. Vous interprétez le rôle d'une comédienne, d'une célèbre championne de tennis, Isabelle Demongeau, qui a été violée plusieurs fois dès l'âge de 13 ans par son entraîneur. Comment on arrive à, non pas forcément tout de suite se mettre dans la peau du personnage, mais comment on va percevoir le rendu que ça va donner à l'écran, la façon pour les téléspectateurs de suivre quelque chose qui est assez anxiogène, d'une tristesse terrible d'ailleurs. Comment on arrive à maintenir l'intérêt du téléspectateur pour un sujet aussi difficile, d'autant plus aujourd'hui ?
Ah, c'est une grande question, Philippe. C'est surtout le rôle du réalisateur, de maintenir l'intérêt du sujet, du scénario. Moi, je suis une interprète et donc moi, mon rôle à moi…
Il faut se mettre dans la peau du personnage, évidemment.
Oui, mon rôle, moi, c'est de transcrire la vibration que j'ai ressentie d'Isabelle Demongeau, parce que je ne peux pas être Isabelle Demongeau, je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'elle a ressenti de sa souffrance et de son message. Mais je suis un véhicule, je suis l'interprète, donc je suis celle qui va faire le lien entre son histoire, elle, et le public, pour que les spectateurs ressentent au mieux son drame et sa douleur. Donc voilà, et après il y a le metteur en scène qui donne l'intérêt au film, l'enjeu et tout, puis le scénario aussi. Chacun a son rôle, et le producteur pour l'image du film, le chef opérateur, on est quand même une équipe. Je ne me sens pas seule à porter le sujet.
Investie dans une mission toute seule.
C'est ça que je voulais dire.
Non, mais l'idée, c'est quand même de susciter, on imagine, qu'on va découvrir ce soir, cette fiction, en effet, que ça crée quand même un débat, j'imagine, au sein des foyers, entre les parents, les enfants, dans un environnement qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus anxiogène, où de plus en plus d'affaires de ce type sortent aujourd'hui.
Oui, je pense que c'était utile et important et nécessaire qu'un film sur ce sujet-là sorte aujourd'hui et à la télé. Parce que ça veut dire que ça va directement dans le foyer des gens, effectivement. Et si ce soir, il y a un enfant qui se sent concerné ou même une maman qui sent quelque chose, tiens, pour délier les langues et pour accepter d'accueillir la parole de l'enfant, en fait, il y a une phrase qui me terrifie dans le film et qui a terrifié Isabelle Demongeau, qui est très employée par les gens face à ce drame-là, c'est « Pourquoi tu n'as pas parlé ?»
Le silence pendant de très, très nombreuses
années. Et cette phrase, en fait, elle insulte, elle fait mal, elle meurtrit, elle enfonce encore plus le couteau dans la plaie à toutes les victimes. Et aujourd'hui, si jamais ce film touche les gens et qu'il est reçu comme il faut, peut-être que l'accueil de la parole des victimes se fera mieux sans cette phrase, en fait, en disant « mais évidemment, je suis là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va porter plainte, on va l'aider. » Et pas « mais pourquoi t'as pas parlé plus tôt ?» Puis surtout parce qu'en fait, ils pensent à eux, les proches sont meurtris parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas protégé, donc ils sont méfiants, ils ne croient pas trop à la parole. Enfin, il y a tout un processus qui se met en place qui a encore plus de souffrance pour la victime.
Couverture cette semaine, Judith Bonnat sous emprise, évidemment sous emprise à travers cette fiction. Nous sommes en direct avec elle sur Figaro Live, je rappelle, diffusé évidemment sur le figaro.fr, également la page YouTube de TV Magazine. On attend vos questions, vos réactions. Est-ce que vous avez justement suivi la carrière de Judith Bonnat? Est-ce que vous allez bientôt la découvrir dans Les Combattantes, également sur TF1? Dites-nous tout, et en attendant, on retrouve tout de suite Damien Canivès pour les news médias du jour.
Et toi, Damien?
Bonjour Damien.
Bonjour Philippe.
Bonjour. Bonjour Damien.
Tradition oblige.
Oui.
On démarre par les audiences télé, non
oui.
pas de la veille là, mais
de samedi soir.
Samedi soir, oui, on s'intéresse au premier jour du week-end. C'est le moment préféré des Français. France 2 arrive sur la première marche du podium, figurez-vous, grâce à la rencontre opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Il s'agissait d'un match de rugby. 6,3 millions de supporters ont applaudi la victoire du 15 de France face aux All Blacks. 40-25 quand même. C'était un match formidable. On comprend ce score au sommet. Ça représente 28,6% du public. Si on établit ce classement uniquement sur la part d'audience, c'est France 3 qui enfile la médaille d'argent grâce à Meurtre dans les Trois Vallées, porté par Lynn Renault et Samuel Labarthe, qui jouera également ce soir dans
notre
émission.
Notre gendarme.
Ah, le gendarme
soir.
Formidable, qui a joué Général de Gaulle aussi récemment à la télévision. 4,1 millions de téléspectateurs. TF1 misé sur la cérémonie annuelle des Energy Music Awards qui récompense le monde de la musique. Pire score, malheureusement, depuis la création de ce rendez-vous, même si sur les cibles commerciales, ce rendez-vous reste encore puissant. Et enfin, on termine avec France 5 qui misait sur un nouveau numéro du magazine Échappée Belle porté par Sophie Jeuvillard. Alors cette fois-ci, on s'intéressait à la Suède. Plus d'un million de voyageurs tout de même, 4,5% de part d'audience.
L'Energy Music Awards, donc quoi pour la musique, et les César et les Molières pour le théâtre et le cinéma. On en rêve de temps en temps quand on est comédienne.
Ah bah oui, je peux pas dire non.
Ouais.
Oh non, j'ai pas du tout envie d'un jour d'avoir un... Non. Oui, ça fait
rêver. C'est une vraie consécration par rapport à une carrière.
Alors, j'imagine, mais en fait, c'est surtout, ça fait rêver la petite fille en moi. Les petites filles...
Enfin, les statues ou... Les statuettes ou pas du tout le...
Non, l'émotion de partager ça, la reconnaissance, tout ça, évidemment, ça crée ça. Mais aujourd'hui, que je ne suis plus du tout une petite fille, que je fais mon métier avec plaisir et joie, j'ai des rôles magnifiques, je me rends bien compte que c'est... Voilà,
c'est un rêve de jeune fille.
On va dire une cerise sur le gâteau, un plaisir que je n'ai pas eu. Et que...
Déjà bien trop tard, encore.
Je ne suis pas malheureuse de ne pas l'avoir. Mais oui, effectivement, et puis ça fait rêver, c'est surtout la cérémonie, les robes... ces trucs de paillettes, quoi.
Le tapis rouge, quoi.
On remercie d'ailleurs, avec de longues phrases, ses parents, ses amis,
oui,
le
voilà.
réalisateur, les
c'est le jour où on a notre attention sur nous, on peut remercier notre famille. Notre...
Allez, on poursuit ces infos médias avec Michel Simès, là c'est moins drôle, hein, qui a affirmé ce week-end qu'il avait récemment chopé le Covid.
Oui, alors rien de dramatique, hein, rassurez-vous, le médecin était l'invité du magazine On est en direct samedi soir sur France 2 et au cours de son entretien face à Laurent Ruquier et Léa Salamé, il a révélé effectivement être tombé malade il y a trois semaines.
Alors, il était plus contagieux.
Il était plus contagieux, tout va bien.
Il n'est pas sur ce plateau.
Voilà, il n'y a pas de cluster a priori dans On est en direct, hein, en tout cas pas à notre connaissance. Alors les symptômes qui l'ont affaibli
sont un peu plus classiques. Comment va-t-il?
Bah, il va plutôt bien, alors, il a perdu le goût et l'odorat.
Il l'a retrouvé ou pas?
Il l'a retrouvé, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. On lui enverra un petit texto après l'interview. Michel Simès, il a précisé qu'il avait pourtant reçu les deux injections qu'il faut actuellement pour avoir son pass sanitaire. Et il a aussi rappelé qu'en réalité, le sérum ne protégeait pas forcément contre le virus, mais en tout cas, il l'empêchait de contracter une forme grave. Il en a profité aussi pour tirer la sonnette d'alarme face à la situation sanitaire qui se dégrade en France, puisque vous le savez, en moyenne, chaque jour, plus de 20 000 cas de Covid sont recensés et de nouvelles admissions à l'hôpital.
Vous êtes vacciné, on imagine ?
Tout à fait.
Tout à fait. Et la perspective aujourd'hui d'arriver avec une cinquième vague, ça bouleverse un peu l'agenda, j'imagine, des tournages, des engagements que vous avez pris.
Je crois qu'on s'est adapté. Les deux derniers confinements, on a tous tourné. C'est que le premier, on n'a pas tourné. Donc on s'est adapté, donc on s'adaptera, on continuera. Enfin...
Plus simple à la télé qu'au cinéma, d'ailleurs. On l'a vu notamment pendant le premier confinement ou le deuxième.
Non,
c'était plus simple de tourner pour la télévision
que pour le cinéma. Alors le premier confinement, plus personne n'a tourné. Ouais. Je crois que ça a été tous unanime.
Ça a
fait du bien à tout le monde. On s'est calmé, on a arrêté la course. Mais les deux autres confinements, tout le monde a tourné. Donc je crois que le cinéma comme la télé, c'est le théâtre qui a vraiment empathie. Et les scènes et tout ça. Mais là, s'il y a un autre confinement, vous en parlez vraiment?
Non, il n'y a pas
de peur. Attendez, parce que là, il faut que
on parle juste d'une cinquième vague pour l'instant qui arrive.
Une cinquième vague, et ben on s'adaptera, on refera. Du moins, on n'a pas lâché
les tournages pendant le...
Non, les conditions sanitaires, on ne les a pas lâchés. Les gestes barrières, on ne les a pas lâchés, nous. Hein,
Allez, on termine avec Camille Combal, qui devient papa pour la première fois.
Le petit chanceux, la femme de
l'animateur de TF1.
Mais il m'avait rien dit.
Non, il vous a rien dit. Il ne dit pas tout, Camille. Il est très discret sur sa vie.
Discret, je l'adore, Camille.
Alors, il paraît que sa femme attend un enfant. Il devrait pointer le bout de son nez vers 2022. Donc, vous pouvez commencer à aller acheter un cadeau.
Peut-être qu'elle n'était pas enceinte quand je l'ai vue la
dernière fois. Non, peut-être pas, effectivement. D'accord. Mais bon, vous pouvez aller vers la grande récré acheter un cadeau de naissance.
C'est quand même vous qui m'annoncez la naissance. C'est même pas lui qui me l'annonce.
On est là pour ça, nous. C'est les news médias. On est à la pointe de l'info. Alors, bon, on l'a appris ce week-end dans un portrait qui lui était consacré dans le le journal du dimanche en réalité. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste devra donc faire une place hein, dans un agenda qui est déjà très chargé, personnel comme professionnel, parce qu'il fait très certainement partie des animateurs qui ont le plus d'émissions à la télévision. On peut citer Masked Singer, qui devrait prochainement revenir à la télévision, Une famille en or, également Camille et Images, ou encore La Grande Incruste, il va devoir...
Et qui veut gagner 10 millions, il ne le fait plus ?
Ben non, pour l'instant non, ça fait un moment qu'on ne l'a pas revenu.
Petite parenthèse.
Il n'est pas question que ça revienne, effectivement. Ah.
Vous êtes maman depuis un peu plus de 3 ans ?
C'est ça.
Ouais. Est-ce que la maternité bouleverse justement dans la carrière, hein, on voit pour certains animateurs parfois, pour une femme à l'écran et dans la carrière que vous avez à la télévision, ça bouleverse l'organisation de votre vie complètement ou pas ? Est-ce que ça change la vision même de votre métier ?
C'est vrai que c'est, maintenant, ça y est, je peux faire un bilan. Donc, je peux répondre à cette question, Philippe, parce que c'est vrai qu'au début, c'était tellement bouleversant que je ne savais pas ce que ça... C'était tellement compliqué à gérer que... Mais c'est vrai que depuis que j'ai mon fils, je travaille toujours. Ouais. Voire, j'ai des rôles plus forts, plus importants. Donc, ça ne m'a pas
plus
empêché...
Plus fréquent même, d'ailleurs.
Ouais. Je sais plus, enfin, je ne pourrais pas vous dire, parce que nous, on travaille, on fait des pauses, tout est... rien n'est vraiment très organisé, cadré, voilà. Mais par contre, oui, ça chamboule. Il y a quelque chose que je peux dire, c'est dire que d'habitude, la semaine, je me fatiguais sur les tournages et le week-end, je me reposais du tournage. Et maintenant, en fait, je me repose la semaine
quand vous
sur
tournez,
mon tournage. Donc,
quand vous tournez.
C'est la seule différence et tout. Sinon, oui, c'est bien organisé. Il y a un papa formidable pour ça qui m'aide beaucoup.
C'est dit, on l'embrasse d'ailleurs.
Ouais, moi aussi, je l'embrasse très fort.
Merci, merci Damien. Et tout de suite, on enchaîne et on poursuit avec l'interview du Buzz Télé. Service volé, c'est donc ce soir sur TF1 en prime time. Vous jouez le rôle d'Isabelle de Mongeau, je le rappelle. Est-ce qu'on se pose la question, on est d'accepter ce type de rôle ?
Si on se pose la question, non. On dit oui
on
tout
y
de
va,
suite.
On y va tête baissée en se disant... L'ampleur du sujet, l'ampleur de l'affaire.
En fait, il y a des scénarios pour soi, c'est évident, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement fort, c'est tellement évident, c'est tellement nécessaire. Ça me donne tellement de raisons de faire ce métier. Enfin, un moteur qui est différent. C'est pas que du divertissement. D'un coup, c'est...
Et du coup, vous n'avez pas hésité 2 secondes
non.
quand on vous a proposé le...
pas 2 secondes. Je crois que j'ai lu, j'ai appelé immédiatement dans la foulée agent réalisateur TF1 pour dire que je voulais faire partie de ce film et jouer ce rôle. C'est un challenge en plus. Enfin, il y a tout, quoi.
Damien, une première question ou réaction des internautes qui nous suivent.
Effectivement, nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr, donc vous pouvez poser toutes vos questions à Julie Debonne. Alors forcément, on a une question d'actualité en lien avec la tennis woman. Est-ce que vous avez suivi l'affaire ? C'est une question de Thibaut Peng Shui, alors je ne sais pas comment on prononce son nom, effectivement, qui a été retrouvé, paraît-il. Enfin bon, est-ce que vous avez suivi l'affaire, tout simplement ?
À l'époque, quand c'est sorti ?
Oui, effectivement.
L'affaire d'Isabelle de Mongeau ?
Alors non, l'affaire contemporaine sur cette tennis woman chinoise qui a été retrouvée. Voilà.
Ah,
est-ce que vous avez suivi cette affaire-là
comme tout le monde, on attend de ces nouvelles.
Ouais, effectivement. Bah oui, c'est ça. Il y a une d'ailleurs très emblématique
oui,
de l'équipe
qui est
sortie.
On attend de ces nouvelles, quoi. Donc c'est vrai que moi ça m'a perturbée.
Elle a réapparu avec des images officielles.
Oui, mais un peu
très
étrange.
Bien ce week-end, en effet les
Vous suivez d'ailleurs l'actualité liée au tennis ou pas du tout
Bah là, ça m'a concernée un petit peu, oui, un peu plus que d'habitude.
Vous êtes une joueuse de tennis ou pas ? Vous êtes entraînée un petit peu pour ce téléfilm ?
J'ai un entraîneur particulier.
Ah oui ?
Ouais.
Et qui est-ce ? Si ce n'est
mon
pas
mari.
Indiscret. Votre mari, effectivement, qui est bien classé, je crois, d'ailleurs.
Il joue très bien au tennis.
Il joue très bien au tennis. Et vous,
je suis
pas
impressionnée.
Du tout ?
Non, mais moi j'aime bien, je me débrouille, donc c'est très amusant. Mais surtout, je suis très fan de tennis, j'adore ça. J'allais à Roland Garros tous les ans, j'adore regarder un match. C'est pour ça que c'était d'autant plus intéressant. Alors... Voilà, pour la petite histoire, ça, pour moi, c'est mes héros, quoi. Ouais. C'est les champions de tennis, parce que j'adore le tennis, je trouve ça tellement élégant, tellement beau, tellement... C'est un sport que je trouve... qui a beaucoup de qualités humaines et de noblesse
de
valeur, voilà. Et donc, c'est vrai que d'abîmer ces héros, ça me touche particulièrement. Je me rends compte que oui... on doit les protéger, on doit les... Tous ces enfants, c'est des rêves brisés, c'est des héros... meurtri, enfin, je sais pas, c'est pas normal. Mmh. Ouais.
On rappelle que ce film, c'est l'adaptation de l'autobiographie d'Isabelle de Mongeau, intitulée Service volé. C'est une fiction qui est vraiment qui colle complètement au livre, où il y a, entre guillemets, certaines libertés qui ont été prises par rapport à ce qui a été écrit par Isabelle de Mongeau?
Alors, c'est une fiction qui colle au mieux au livre. C'est la base de départ, c'est le livre d'Isabelle de Mongeau, mais elle va jusqu'au procès, alors que son livre, il s'arrête avant le procès. Donc, c'est, on va dire que ce n'est pas exactement le livre.
Un peu une déclinaison aussi.
Mais oui, mais par contre, tout ce qui est dans le scénario est quasiment vrai, jusqu'à la rencontre avec sa nouvelle femme, mais qui ne s'est pas fait dans le bar particulièrement. Mais en tout cas, tous les éléments sont vrais. C'est ça qui est. Il y a beaucoup de véracité dans le film, mais c'est assez troublant quand on tourne ça.
Et est-ce qu'Isabelle de Mongeau avait un droit de regard, d'une certaine manière, sur ce tournage? Et est-ce qu'également, elle a participé, d'une certaine manière aussi, au tournage, sur la réalisation de cette fiction?
Alors, elle avait un droit de regard sur le scénario. Je crois qu'elle a donné son accord à toutes les étapes du scénario et surtout, elle était très proche du réalisateur Jérôme Foulon parce qu'il habite aussi, il a une maison dans le sud à Saint-Tropez à côté et tout ça. Donc, ils se connaissaient bien et ils ont créé une vraie intimité, une vraie relation de confiance. Elle lui a confié. Donc, lui était vraiment aussi, avait besoin que ce soit authentique et vrai. Donc, tout ça a été paramétré par Isabelle. Mais sur le tournage, par contre, c'était le réalisateur qui faisait. Elle n'avait pas son avis
Est-ce
là-dessus.
Est-ce que vous avez eu le besoin de la rencontrer, d'échanger, de discuter de cette terrible affaire avec elle?
Pour moi, c'était vraiment essentiel quoi, à la création du personnage. Sinon, je ne pouvais pas faire le rôle. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de lui demander son accord moral. Est-ce que, ok, voilà, je suis actrice et je vais donc interpréter ton histoire. Est-ce que tu es d'accord, déjà ?
Mettre dans votre peau.
Oui, que ce soit moi qui le fasse, comment, et puis que, voilà, c'est très délicat, hein, cette histoire-là a commencé. Il fallait qu'elle soit en accord avec ce que j'allais faire. Ouais, c'est une grande responsabilité.
Et ça s'est bien passé.
Extrêmement bien. C'est une femme incroyable. C'est vraiment une femme généreuse. Vous l'avez rencontrée déjà ?
Non.
Ouais. Non, on n'a pas eu cette chance-là, effectivement. Mais justement, il y a une question de Christelle en lien avec Isabelle de Mongeau. Elle aimerait savoir comment cette joueuse de tennis a réagi lorsqu'elle a découvert votre téléfilm. Est-ce qu'elle a été particulièrement émue ou alors elle a été peut-être frappée par la ressemblance aussi physique, hein, parce que vous vous êtes transformée, hein, il faut le dire, pour ce téléfilm, on le voit dans la bande-annonce.
Ben, merci. Alors, Isabelle l'a vue et m'a dit une chose assez étonnante et fabuleuse, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « ce n'était plus mon histoire, c'était la tienne ».
Ah.
Et donc c'est...
Vous lui avez enlevé un poids alors d'une certaine manière peut-être, non ?
Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, je ne veux pas tu vois, surinterpréter ce qu'elle a dit, mais moi j'ai envie d'imaginer que ça veut dire que ça y est, elle rend l'histoire, elle ne s'est pas vue, donc elle a vu mon histoire, ça veut dire qu'elle déjà, elle peut être universelle, et qu'elle se décharge un petit peu de... C'est la résilience un peu, ça y est, ça permet, c'est un peu l'histoire de PNL souvent, quand tu veux guérir de quelque chose, tu l'imagines un peu plus loin.
Exactement.
Un peu plus petit, et tu vois ton histoire comme ça. Donc peut-être que c'est un peu de cette degré-là, je sais pas, c'est de l'interprétation. Elle m'a dit tout ça, elle m'a dit que c'était plus son histoire, c'était la mienne. Et après, elle m'a dit aussi qu'il y avait une véracité dans tout, c'était très respecté ce qu'elle avait dit. Et le procès, par contre, que je trouve très beau et très bien fait dans l'histoire, mais n'était pas assez long pour elle. Elle aurait voulu ça mettre une heure et demie, parce qu'elle m'a dit que c'était tellement compliqué.
Il y a eu plusieurs jours de procès
long.
Aussi.
Et il y a plein de témoignages qui n'ont pas été dit. Elle regrettait que ce ne soit pas que encore plus grand sur le procès. Quoi. Et je lui dis, pourtant, tu ne te rends pas compte, 15 minutes sur un procès, c'est déjà énorme.
C'est beaucoup.
Et il est vraiment très bien fait, pour le coup. Mais elle aurait voulu plus...
Là, la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi elle s'est tue, et c'est une question qu'on se pose régulièrement,
C'est la question que je t'ai interdit de la poser maintenant.
Pendant tant d'années.
Tout à fait. C'est la question que ses proches lui posent et qui lui fait mal. Alors, pourquoi tant d'années Pourquoi il y a prescription? J'ai envie de te poser, c'est la contre-question. Pourquoi les 20 ans de prescription étaient d'une violence terrible pour les victimes et maintenant elle est passée à 30 ans? Donc, la réponse est dans cette loi-là, je pense. C'est-à-dire que 20 ans, c'est pas suffisant.
D'une certaine manière, quand même.
Bah, en fait, ça veut dire que, tout simplement, il y a beaucoup, beaucoup... T'imagines? Donc, ça veut dire que 20 ans, ce n'est pas suffisant pour parler après un drame pareil. Donc, il faut prendre la base du drame. Qu'est-ce que ça crée chez toi? Et l'avocate du téléfilm, Damien, tu me diras, elle fait un truc magnifique sur la tétanie d'un animal, comme une gazelle qui est tétanisée face au drame. En fait, ça crée un tel drame. Moi, je dirais que la première fois qu'il l'a touchée, on se remet dans le contexte, elle a 13 ans. Ça fait 2 ans qu'elle connaît. C'est cet homme-là qui peut faire que son rêve deviennent réalité. Elle lui donne tout pouvoir sur lui. Elle le dit, le tennis, pour moi, c'était un éblouissement. Donc imagine une gamine qui n'est faite que pour ça, qui est passionnée. Le rêve de sa vie, tout ça. Il la touche, c'est-à-dire surtout, les parents lui font confiance. Il vient à table chez eux. C'est lui. Il lui dit, en plus, le sport, ce qui est terrible, c'est qu'on dit, on pousse un enfant à ne plus avoir mal, à dépasser sa souffrance pour pouvoir être encore meilleur demain. Donc la douleur n'est plus quelque chose qui est un problème chez ces enfants-là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les étirements, c'est eux qui le font. Il ne faut pas l'oublier non plus, ça. Et donc quand il va en chambre d'hôtel, quand c'est Roland Garros qui est demain, il lui pose la main, c'est très émouvant, hein, mais il lui pose la main à ce moment-là et il lui dit, ne dis rien, ce sera notre secret. Grâce à ça, tu vas gagner demain le match. À cet homme-là, tu ne peux pas dire non. Il n'y a pas de raison pour dire non. Ça bug dans son cerveau. C'est l'homme en qui j'ai le plus confiance, qui me fait gagner ma vie, qui m'a raison de vivre, en qui mes parents ont confiance. Je suis seule dans une chambre d'hôtel et tout ça. Et à partir du moment où tu laisses entrer cette main-là en toi, la honte s'installe, la tétanie s'installe et tu ne peux plus parler. Donc la fille s'est fait violer pendant 9 ans sans pouvoir parler de quoi que ce soit. Et la question de pouvoir dire « mais pourquoi tu n'as rien dit ?» c'est encore plus une souffrance pour les victimes. Parce qu'elles sont tétanisées, figées. Et là, pourquoi elle n'a pas parlé pendant 9 ans ? C'est parce qu'elle pensait que si elle parlait, ses parents allaient souffrir. Parce que ça veut dire qu'ils sont honteux et ils n'ont pas pu la protéger. Donc elle allait forcément faire souffrir ses parents. Ensuite, si elle parle, la fédération ne va pas la croire, on va la mettre en cause et tout ça. Elle ne va plus pouvoir faire la raison de sa vie, faire du tennis, parce que tu remets en cause ton entraîneur. Tu penses que ton entraîneur, c'est lui qui va te faire gagner. Donc tu restes, tu tais, tu te laves, tu frottes, comme elle dit dans le film, et tu continues. Et donc tu te fais violer pendant 9 ans. Elle pense que le fait de partir du tennis, d'arrêter le tennis, parce que ça l'a saccagé, changer d'entraîneur, ça suffit. Et en fait, la douleur est toujours là. Et tu continues, tu dis, le fait que je sois partie, c'est déjà énorme. Je vais pas commencer à parler et détruire tout le monde autour de moi. Donc tu te tais, tu te tais, tu te tais. Pendant 20 ans. Et là, tu vois que ta souffrance, elle est encore toujours présente. Parce qu'elle a des problèmes au dos, de physique et tout. C'est le démarrage du film. Mmh. Tu dis, OK, il faut que je porte plainte pour guérir, pour souffrir. Et les 20 ans sont passés. Elle avait prescription.
À l'époque, prescription.
Donc le mécanisme est réglé comme un...
Alors comment on obtient justement réparation ?
Alors, j'espère que le film... En fait, j'espère que la diffusion va obtenir réelle réparation. Parce que après, elle porte plainte, il y a prescription. Donc, t'imagines la violence que ça crée aussi, qu'on lui dit
double peine.
Double peine. Donc là, elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule. Les 24 cas, elle obtient des témoignages de personnes qui ont aussi prescription, qui ne peuvent pas porter plainte, sauf deux qui peuvent porter plainte. Mais ces personnes-là ne sont pas prêtes à porter plainte parce que le mécanisme des 20 ans n'est pas passé. Donc il faut qu'elle les motive, il faut porter plainte. Elle arrive à les motiver. Il y a 9 ans de bataille judiciaire où on lui dit non, nanana. Mais elle ne peut pas porter plainte. Elle n'est que le pionnier, la pionnière qui dénonce ça, mais elle ne peut pas. Donc elle arrive à les convaincre et c'est les deux autres qui portent plainte. Donc elle n'a pas réparation, c'est finalement les deux autres qui ont gagné. Hein. Elle n'est que l'accompagnatrice, c'est ça qui est terrible, c'est son combat.
De réparation à travers, en effet, la condamnation
quand
même.
Elle ne l'a pas la réparation, on ne lui a pas dit,
tu
es une victime. On ne lui a pas dit, c'était interdit, tu es une victime, tu as un dédommagement quel qu'il soit. On ne lui a jamais dit ça. Donc elle a réussi à ouvrir une voie incroyable pour toutes les autres victimes. Donc c'est une femme formidable qu'il faut absolument mettre à l'honneur aujourd'hui. Et au final, ces deux arrivent à porter plainte, 9 ans et tout. Mais toutes ces 9 ans de bataille judiciaire ont été encore plus une souffrance pour elle que ces 8 ans ou 9 ans de viol. C'est un peu, imagine, parce que ça a été remettre sa parole en cause, détruire sa famille, la fédération, le tennis, l'image du sport. Enfin, t'imagines ce combat qu'il faut mener.
Et faire face encore à son ancien agresseur aussi.
Oui, au procès, là. Et là, il y a, donc il est incarcéré, il a payé sa peine. Mais maintenant, elle se bat pour les enfants, pour que la fédération fasse quelque chose. Sa bataille n'est toujours pas... tu sens cette femme qui continue à se battre et se battre. C'est une grande championne. Son plus grand match, c'est celui-là. Jusqu'à la diffusion de son film pour raconter son histoire. Donc je pense que ce soir, pour elle, c'est un grand moment pour tout le monde et pour qu'elle décharge cette responsabilité aux autres enfants, aux autres parents qui vont voir et aux autres adultes qui vont voir ce drame et peut-être protéger les enfants, qu'elle ne soit plus la seule à vouloir se battre comme ça. Voilà.
Damien.
Je suis désolée, j'ai pris beaucoup la parole.
Mais non, mais c'est intéressant. Véro, justement, qui a hâte de regarder le téléfilm ce soir sur TF1.
Véro.
Elle vous demande, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous réagiriez si ce genre d'horreur arrivait à quelqu'un de votre famille ? Est-ce que vous êtes projeté, justement, quand vous avez préparé ce rôle ? Parce que la réaction de l'entourage est aussi l'un des points forts de ce téléfilm.
En fait, la première chose, mais ça, il n'y a pas que moi qui le dis, mais la première chose, c'est d'accueillir la parole.
Ouais.
Surtout, de prendre en considération cette parole, surtout pas la remettre en cause. C'est ça qui est terrible, c'est qu'évidemment, il y a un cas sur 1000 où l'enfant ne dit pas la vérité, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut regarder, parce qu'il ne faut pas figer et bloquer la parole de ces enfants qui osent parler. Déjà, oser parler, c'est énorme. Il y a une scène dans le film où elle parle et elle se prend une baffe par sa mère.
Oui.
C'est plutôt comme ça que les parents réagissent. Ça a l'air honteux, mais C'est trop violent, en fait. On sait qu'on va... Ça chamboule tellement, c'est tellement culpabilisant et horrible.
Disons qu'il y a plusieurs réactions. C'est-à-dire qu'il y a le papa qui veut tuer l'agresseur. Clairement, hein, à un moment donné, ouais. Il dit « Je vais le croiser, je vais le tuer. » Et puis, il y a la maman qui, elle,
a peur de ça, qui rejette. Il y a la sœur qui demande « Mais pourquoi t'as pas parlé ?» ouais. Et il y a le frère qui est honteux parce qu'il trouve qu'elle prend trop de place.
Oui.
Qu'il n'existe plus et tout ça. Donc, c'est vrai que la réaction est assez, assez juste. Alors, moi, aujourd'hui, si quelqu'un venait me dire ça... je pleurerais avec la personne de ne pas l'avoir protégée, pas l'avoir vue et tout ça, et j'essaierai de l'accompagner à parler, à porter plainte. Je pense que c'est très important de porter plainte.
Dans la fiction, l'entraîneur d'Isabelle de Monjou s'appelle Tony Maillan. Or, dans la réalité, c'est pas tout à fait son nom. Hein. Il s'appelle Régis de Camaret. Pourquoi avoir changé l'identité de cet homme alors que c'est pas le cas pour elle?
Alors ça, faut demander à TF1 et
un aspect juridique.
Je crois, ouais. Je suis pas rentrée dans les. J'ai pas bien compris ces idées.
Il a interdit en effet d'utiliser son nom alors qu'il est toujours aujourd'hui incarcéré.
Je crois que c'est parce qu'il a payé sa peine et qu'il a le droit
à une certaine.
Ça, c'est le juridique.
Un retour à l'anonymat.
Ouais. C'est juridique, je sais pas. Ouais.
Au moment où aujourd'hui le mouvement, on a vu un MeToo a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Ça résonne comment cette affaire encore aujourd'hui? Et ça résonnera comment demain, j'imagine, avec la diffusion dès ce soir.
Oui, puis il y a eu aussi, il y a eu cette loi
sur la prescription.
Billon, ouais. Non, il y a eu prescription, puis il y a eu la loi de en dessous de 15 ans, c'est un viol.
Ah oui.
Ça bouge énormément, donc MeToo, c'est le déclencheur de tout ça. Donc moi, je suis très fière du mouvement MeToo, c'est qu'il fallait que la parole se libère, parce qu'il y a eu l'inceste, il y a eu tous ces sujets qui se libèrent au fur et à mesure. C'était indispensable.
Damien.
Allez, une question de Jérôme qui souhaite savoir si vous avez été aussi victime de ce genre de gestes déplacés ou de viols, clairement, lors de votre carrière. On sait que c'est effectivement une problématique qui est certes a lieu dans le monde du sport, dans le monde de la mode, de la politique, mais aussi dans le monde des comédiens.
Dans tous les domaines, hein, dans les bureaux, dans les. Je pense que dès qu'il y a un abus de pouvoir, surtout. Je pense que c'est lié à l'abus de pouvoir beaucoup. Après, il y a des viols atroces sans abus de pouvoir, mais ceux avec de l'abus de pouvoir, ça s'infiltre.
Toutes les strates de la société.
C'est terrible parce que voilà, une mère de famille, peut-être célibataire, qui a du mal à payer son loyer et tout ça, qui sait que le patron lui demande ça, et tu sais très bien qu'il y a un enjeu qui est autre. Et je trouve que c'est ça qui est pervers, qu'elle dise rien. L'abus de pouvoir, il est là et il ne devrait pas se permettre quoi que ce soit, en fait, même de faire une proposition. Alors, bien sûr, on peut avoir des histoires d'amour au bureau et tout
bien
ça.
Sûr.
Mais,
sans perversion, peut-être.
Ouais,
mais c'est ça qu'on demande aux hommes aujourd'hui, c'est de...
C'est de traiter la femme avec respect. Et...
S'il a du pouvoir, il doit l'utiliser à bon usage. C'est comme un super-héros dans les films, les Marvel. Quand tu as un pouvoir, fais attention. Il y a la force obscure qui est juste à côté d'un pouvoir magique.
Un pouvoir implique de grandes responsabilités.
C'est-à-dire qu'on doit avoir ce respect et cette humilité. Tu es un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir. Il y a peut-être des abus, il y a des abus sexuels de la part des femmes. Il ne faut pas non plus...
Et pour répondre à Jérôme...
Est-ce que tu as du pouvoir, toi, Philippe? Comment tu te comportes? J'ai envie de vous dire. Est-ce que vous avez agressé des... responsabilité, les hommes de pouvoir et les femmes de pouvoir.
Et pour répondre à Jérôme, sans rentrer dans les détails, est-ce que ça résonne avec votre expérience personnelle aussi, ce genre de téléfilm, ou pas du tout? Et vraiment, vous êtes...
Personnel, tu veux dire? Non, mais ça, c'est... J'ai pas envie de dire malheureusement.
Non, mais tant mieux pour vous.
Non, mais j'aurais du concret à... Mais alors ça, j'ai pas d'histoire à raconter en particulier, mais ça résonne en moi quand même énormément.
Bien sûr.
Peut-être que c'est transgénérationnel, parce que nos ancêtres l'ont vécu, et que quoi qu'il arrive, le simple fait d'être une femme ou d'être un être humain, tout simplement, parce que je pense que ça résonne en toi aussi.
Bien sûr.
Tu viens d'avoir une petite fille.
Et exactement, parce qu'on se met à la place des dames aussi.
Et donc, ça résonne en moi, quoi qu'il arrive, cette histoire a résonné en moi. Alors peut-être le fait de ne pas l'avoir vécu moi m'a permis d'avoir plus de distance pour jouer le rôle. Ça, c'est la seule chose positive, on va dire, de pouvoir... mais par contre, ça résonne en moi, ça me révolte, ça me concerne tout autant.
Bien sûr.
Fin janvier, on vous retrouvera dans une fiction unitaire baptisée Mise à nu. Hein, cette fois, c'est pour France 2. Il va y avoir des questions de cybercriminalité et de revenge porn même.
Le revenge porn, oui.
Revenge porn. On vous voit pas mal dans des fictions sociétales.
Ah, là, c'est coup sur coup. Là c'est un timing.
C'est un hasard de calendrier ou c'est de votre part une volonté aussi de travailler sur plus de sens, plus de fond?
Peut-être que c'est. En fait, tu sais, quand les films sortent, c'est marrant parce que je ne les ai pas fait du tout au même timing. Mise à nu, bien avant, je l'ai fait. avant Service Volé. Et peut-être que quand on me l'a proposé... Mise à nu, je l'ai fait bien avant que Service Volé. Et Service Volé sort avant, donc c'est drôle. C'est des
renversements du calendrier.
Et au final, j'ai l'impression que quand je choisis mes rôles, c'était donc il y a plus longtemps maintenant, et j'avais peut-être besoin de sens. J'ai dû ressentir le fait qu'il faut que je fasse quelque chose qui me plaise moi, qui me fasse grandir moi, qui ait plus de sens. Et les deux projets sont arrivés.
Et alors, il y a un troisième projet, Les Combattantes. Très, très gros budget de TF1 cette fois. Hein. Il y aura également vous, Audrey Fleurot, Camille Lou. Est-ce que c'est une suite d'une certaine manière ?
Sophia et Saïdi aussi qui nous rejoint.
Ouais. Ah, Bazar de la Charité. C'est Bazar de la Charité bis, suite.
Oui, c'est ça. C'est un nouvel opus, on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la suite, parce qu'on prend donc les trois actrices, on les met dans une autre période, donc en Première Guerre mondiale, et avec d'autres personnages. Et on rajoute Sophia et Saïdi. Donc en fait, c'est plus pour montrer, c'est le même thème en fait, c'est quelle est la place des femmes dans cette société-là.
À nouveau du sociétal.
Voilà.
On continue.
Et féministe là. Donc c'était l'époque du Bazar de la Charité, et là maintenant, c'est quel est le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale. J'aime bien cette productrice Iris Boucher de chez Quad, et elle avait eu cette bonne idée là, parce que c'est vrai... Il n'y a pas de monument aux morts pour les femmes de la Première Guerre mondiale. Pourtant, elles ont aidé. Il y en a qui sont mortes pour la France. Et il y a pas... Par contre, il y a un monument aux morts pour les chevaux.
Les combattantes, c'est déjà en boîte. Tout est en boîte ou le tournage
Non, on finit. On n'a plus que 4 jours de tournage. Là, je fais les 4 derniers jours.
Bientôt sur la route. Vous restez avec nous. On vous garde pour notre dernière rubrique en toute franchise. En toute franchise, c'est simple. Le principe est de nous répondre avec le plus de sincérité possible.
Est-ce que j'ai le droit de croiser les doigts
Comme vous l'avez fait depuis le début.
Je vois tout.
Allez, en toute franchise, le plus beau souvenir de votre carrière.
Plus beau, avec Michel Bouquet. Je crois que là, le jour où il jouait le malade imaginaire, et moi je jouais Angélique, et le jour où il m'a fait croire qu'il était vraiment malade avant de monter sur scène pour me faire... comprendre ce que c'était que ce métier. Il m'a fait le plus beau message d'acteur. Et après, il est sorti de scène, il m'a dit « Ça y est, tu es une grande actrice.
Ah, » Génial. Michel, la tendresse.
Je l'aime profondément. Ouais.
Et à l'inverse de votre meilleur souvenir, votre pire souvenir maintenant
est-ce Mon que vous pire souvenir oui. C'est au théâtre aussi, c'est comme théâtre. Quoi. Hein, c'est vraiment le théâtre avec Gérard Jugnot.
Ah bon
Je jouais État critique. Il s'en rappelle encore quand on se voit, qu'on fait comme ça tous les deux. C'est-à-dire que c'était une de mes plus premières pièces et j'ai eu un trou phénoménal qui a duré deux minutes, je pense, ou 1 minute 30. J'exagère parce que de toute façon, c'est une éternité.
Oui, deux secondes, ça paraît deux siècles.
Ah ouais. Et je suis rentrée sur scène, c'était une pièce sur Victor Hugo, il faisait Charles Sainte-Beuve, moi je faisais Juliette Drouet. Et je montais sur scène, j'étais toute jeune, je montais sur scène et je le regarde et je fais « Je ne sais plus qui je suis, où j'habite, je ne sais plus. » Alors je venais de faire 150 représentations, donc le texte, je le maîtrisais. Il m'a regardé, il a su que j'avais un trou. Et il n'y en avait aucun des deux qui arrivait à rattraper l'autre parce que ce n'était pas un texte facile à improviser. Et à un moment, on a réussi à faire quelque chose sorti de scène. Je crois que j'ai voulu mourir. Donc et après, en sortant de scène...
Et vous n'avez jamais eu cette crainte après, lors de tournage suivant
Ah, mais tournage, c'est pas pareil. Tu peux te planter, tu refais la prise.
Mais sur scène, en tout cas, vous avez toujours cette crainte d'avoir le trou de mémoire.
Sur scène, oui, c'est terrible.
Exercice direct. Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc quand vous rentrez sur un plateau de tournage?
Oui, je crois que j'ai plein de tocs, ce que me disent les metteurs en scène. Alors... qu'est-ce qu'ils me disent? En fait, je ne me vois plus le faire, mais je crois que je fais un truc comme ça.
Ah ouais?
Je me défends. J'ai plein de tocs, un peu à la Nadal. Tu sais, les trucs de Nadal, j'ai plein de trucs. Ah oui, j'écoute ma musique, j'écoute les quelques notes de musique avant. Je fais un truc, une espèce de toc un peu très étrange. Et moteur, action, comme
et
ça.
Et là, c'est plus après.
Ouais, c'est plus Julie, quoi.
Et si vous n'aviez pas été comédienne, vous auriez exercé quel métier?
Je voulais faire de la génétique ou de la biochimie.
Ah oui, rien à voir.
Ouais, en fait, beaucoup.
Ah bon ?
Ah oui, parce que je me posais des questions sur la vie, l'existence sur Terre, qui on est génétiquement, d'où ça vient, la biochimie, l'astrophysique et tout ça. Donc toutes ces questions-là, je les avais dans la science. Et puis finalement, je les ai trouvées plus facilement dans le monde émotionnel. Ouais.
Si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, ce serait qui ?
Une seule personne célèbre ? Il y en a plein !
Ah non, mais une.
Qui me donne envie, là.
C'est le principe de...
Ouais. Une seule personne célèbre.
On prend de cours aussi. Hein.
Dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma.
C'est un mentor, peut-être.
Molière.
Ah bah oui, Molière. Capucine Anaf.
Faut qu'il m'écrive une pièce pour moi.
on va
ouais, parce que si on le réveille, si on le fait, on le réveille de là, il y a intérêt à ce qu'il fasse quelque chose.
Olière, si tu nous écoutes, comme diraient certains.
Allez, une autre question. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique?
Ah, voilà, voilà.
Est-ce que vous avez des complexes?
Vous avez 5 minutes devant vous
ou... allez-y, on est psychanalyste ici.
Mon caractère qui me déplaît le plus, ouais, je suis une tête brûlée.
Ah, c'est vrai?
Ouais, je suis.
Vous foncez sans réfléchir. Brûlée.
C'est ça, tête brûlée?
Bah, c'est ça, non? Oui, c'est, vous êtes un peu fonceuse, quoi, non?
Oui, mais pas sans réfléchir.
Ah, d'accord.
Tête brûlée, c'est, je suis une acharnée.
Jusqu'au bout.
C'est-à-dire que je lâche rien.
Ouais, vous, d'accord.
Tu vois, je réfléchis quand même. C'est
obstiné,
que je suis d'accord.
Vous êtes obstiné.
Ouais, je veux dire qu'il y a un petit détail. Et si je ne suis pas d'accord, je suis une tête brûlée. Et c'est dur pour, t'entends, pour l'entourage, parce que je ne lâche pas. Et tant que je n'ai pas lâché. Ouais. Donc, il faut que j'apprenne à lâcher. C'est pas si grave.
Allez, lâcher du lest.
J'avais lu une phrase, c'était avoir raison.
Oui.
En fait, faut choisir entre avoir raison ou être heureux.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ben, oui, on peut.
Et ça m'aide un peu. T'entends, je me dis, c'est pas ça. C'est lié à ça, être acharné, c'est que je veux, voilà. Et donc si je dis, mais non, c'est le plus important d'être heureuse, donc on s'en fiche. Voilà.
Est-ce qu'on se rend heureux l'année prochaine? Et c'est l'élection présidentielle, hein, ça vous a pas échappé. Allez, on fait un peu de fiction. Si vous étiez élu chef de l'État,
oula,
votre première mesure, votre première décision,
elle serait écologique.
Ah, c'est vrai. Ça vous tient à cœur?
Écologique.
Bah, c'est, je crois que c'est primordial, non?
Ouais.
Première décision, parce qu'après j'en ai plein d'autres, hein, mais je suis une acharnée, je vous l'ai dit.
Ça arrive au terme de cette émission, donc ça va être compliqué. Mais...
Donc non, et oui, écologie, pour moi c'est la priorité, c'est-à-dire que je ferai un confinement par an.
Pour se recentrer sur soi-même.
Ne votez pas pour Gilles Benin.
Non, je veux dire, je calmerai tout, et dire calmez-vous, quoi. Mais bon, ouais. C'est pas économique.
Non, pas vraiment.
C'est donc contradictoire avec la politique.
Allez, une dernière question. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez? Sentimentalement ou...
Le plus précieux
oui, le
que
plus
je
précieux.
Possède bah, alors, pour pas dire mon fils, ma famille.
Votre famille, ah bah oui.
C'est pas un objet.
Oui.
Mais
et vous l'avez toujours
tu
avec
voulais,
vous.
Tu voulais dire un objet, vraiment?
Oui, un objet peut-être, ouais.
Un objet le plus précieux?
Oui, c'est ça, quelque chose, je sais pas, qui vous rappelle un moment de votre enfance peut-être ou de votre famille.
Bon alors ma bague de mariage.
De mariage, ça, donc, ça oui.
Ça au moins c'est symbolise. Ouais.
Puis elle coûte une blinde, c'est ça que vous vouliez dire aussi? C'est pour ça que c'est précieux.
C'est toi qui étais blindé tout à l'heure, c'est que tu disais.
Oui, non, mais ça, c'est...
T'avais un agenda c'est, blindé, je crois.
Oui, c'est exactement,
ça.
C'est ça.
Allez, on finit, non pas avec de l'argent, mais sur une note légère, la chanson que vous écoutez en boucle.
Tu dis non à l'argent, moi, vous savez, au théâtre. La chanson que j'écoute en boucle, Laissons entrer le soleil.
Ah oui,
Let the sunshine in.
C'est Julien Doré qui chante ça ou pas? Non, je ne sais plus.
Là, il a repris. C'est Julien Clerc.
Julien Clerc, pardon, je me trompais de Julien.
Gilles Benin a aussi des talents de chanteuse. On va le voir dans une prochaine émission avec elle. Merci encore.
Je vous fais la choré la prochaine fois.
Et la choré. Merci Gilles Benin d'être venu ce soir. Je le rappelle, un service volé sur TF1 en prime time. Et nous, demain, nous recevons.
Oui, demain, nous recevons une nouvelle actrice qui, cette fois-ci, officie sur M6 dans une série qui s'appelle Sauver Lisa. Ça a été lancé la semaine dernière. Deux nouveaux épisodes arrivent cette semaine. Il s'agit de Déborah François qui sera là demain sur ce plateau.
La série est géniale. Elle est avec Caroline Anglade
exactement.
Rôle titre. Elle est géniale. Ouais. Regardez-la.
Effectivement, elle est formidable. Et il y a deux nouveaux épisodes cette semaine. On attendra toutes vos questions.
On va embaucher Julie Bonap, chroniqueuse dans notre émission.
Ah ouais.
Merci encore et portez-vous bien.
Merci à vous, les garçons.